Cruel FM.
Et c'est avec Mathéo et Aurélie. Salut à tous les deux.
Salut.
Alors aujourd'hui, on va parler donc de l'archéologie et de la musique. Donc en archéologie, il y a des on retrouve pas énormément de choses par rapport à la musique. En fait, va y avoir des des choses qu'on va pouvoir retrouver, des choses qu'on va pouvoir interpréter. On sait que la musique existe évidemment au cours de l'histoire, et donc l'archéologie peut quand même nous aider. Par exemple, on va retrouver des instruments, ceux-ci vont être par exemple en bois, du coup il ne va pas y avoir une super conservation, et les partitions n'arrivent qu'à des époques très récentes, donc malheureusement on ne va pas trop avoir d'aide là-dessus. Par contre, on va pouvoir s'aider des études anthropologiques, mais aussi des études ethnographiques, donc avec des peuples, par exemple, de chasseurs-cueilleurs. On va pouvoir peut-être savoir si eux pratiquent la musique, et ça peut nous renseigner sur comment la musique peut être réalisée hors de nos standards contemporains. Et cette étude de la musique, elle va être pluridisciplinaire. Donc à la fois, on va utiliser donc l'archéologie avec quelques traces quand même. On n'est pas trop dépourvu. Donc avec l'ethnologie et évidemment avec les études de la musicalité. Donc toutes ces études-là vont pas mal quand même nous aider.
Donc d'abord, je vais vous présenter en fait les premiers instruments qu'on connaît en préhistoire. Les premiers instruments qu'on connaît qui sont vraiment reconnaissables, c'est des flûtes. Donc on a trouvé des flûtes en os qui datent du paléolithique. Donc au Pays Basque, on en a trouvé à Esturitz qui date d'il y a 35 000 ans. Et les plus anciennes proviennent d'un site allemand. Elles datent de 40 000 ans et le nom du site c'est Hollefels. Ça va, c'est pas trop dur. Donc on a aussi des instruments en coquillage. Donc on a retrouvé par exemple dans la grotte de Marsoulas qui date d'il y a 18 000 ans, une conque. Donc, c'est un espèce de gros coquillage auquel on apporte quelques modifications pour avoir des sonorités valables, quoi, pour faire un beau son. Et donc on a retrouvé pas mal de ces exemples de conques, dont le plus vieux a été retrouvé dans une grotte en France. Ce qu'on va retrouver du coup, c'est essentiellement des instruments en os ou en coquillage. Mais on a aussi des exemples d'instruments qu'on n'a pas retrouvés, qui pourraient être en bois, sur des peintures pariétales. Alors je me souviens plus du nom de la grotte, mais on avait un personnage anthropomorphe, donc du coup qui était mi-homme, je sais plus ce que c'était l'animal non plus.
Je crois que c'était lion, hein.
Lion peut-être.
Un petit peu, ouais, possible. Je crois que c'était ça, ouais.
Qui du coup jouait d'un instrument qui a été, il me semble, rapproché d'un arc à bouche. Donc c'est un espèce d'arc dans lequel on siffle et avec une corde on peut faire vibrer les sonalités. Au niveau de la préhistoire, surtout, on attribue la musique à une portée rituelle, surtout quand on s'y retrouve dans les contextes de grottes, parce que les grottes sont aussi attribuées au rituel, mais en soi, on n'en sait rien, ça peut très bien être de la musique juste pour apporter communautaire.
Donc moi, je vous parlais un petit peu de l'archéologie de l'Antiquité, donc principalement grecque. On va avoir le sanctuaire de Delphes, qui va être le sanctuaire principal pour cette musicalité. On va retrouver sur le trésor des Athéniens un hymne qui est dédié à Apollon, donc qui va être gravé sur ce trésor. Et en fait, on va retrouver aussi un long texte avec des annotations pour la musique. Alors c'est pas hyper facile à déchiffrer, mais en soi, le contexte général, ça va être une proto-partition, un petit peu pour comprendre comment se jouait ça. D'ailleurs, en 1883, à Eleusis, on retrouve des fragments d'une céramique. Bon, jusque-là, rien de particulier, on est en contexte grec. En fait, au-delà d'une céramique à figure noire, on retrouve des caractères qui sont peints dessus. Et en fait, ils assemblent une pseudo-partition, donc avec des caractères, donc c'est T, To, O et Ta, il me semble. Et en fait, en les lisant, il y a des points qui sont apposés. Et en fait, si on lit ces points avec la partition, on pourrait essayer de recontextualiser une sorte de musique. Ça va un tout petit peu loin, c'est des études relativement anciennes, mais le principal, c'est de se dire que c'est une bonne piste quand même pour étudier ça. Au-delà de ça, la musique, par exemple, en Grèce, c'est principalement pour le culte. Donc, tout ce qui va être procession, on va avoir, c'est jamais silencieux. Déjà, bon, il y a tout le monde qui marche. Je pense qu'un village grec qui marche jusqu'à son temple, ça doit faire quand même pas mal de bruit. Mais ensuite, on a tous les joueurs de musique, principalement de l'holos, donc c'est une double flûte. Qu'on retrouve à la fois dans l'épigraphie, dans l'iconographie, et à la fois qu'on retrouve aussi en archéologie. Donc ce sont des flûtes soit en bois, soit en os. Donc ça nous permet pas mal quand même de voir un petit peu ce qui peut se passer en antiquité, surtout grec du coup, par rapport à la période de l'âge du fer, ou du moins de l'Athènes. On va avoir des carnyx qu'on va retrouver. Alors on connaît très bien ceux de Tintignac, qui sont retrouvés donc en Corrèze. À la fois, on va avoir une sorte d'embouchure qui est relativement longue, avec une tête souvent d'animal, donc soit un sanglier, soit un serpent. Dans le cas de Tintignac, on retrouve les deux. Tout ça est donc en métal frappé. Et en fait, en reconstituant ça, on peut savoir que cette espèce de trompette celtique fait à peu près 1m80 et est relativement lourde quand même. Hein. Si on part de 1m80 que du métal, c'est pas mal costaud. Et en fait, ces carnyx, on a encore un peu de mal à les déterminer. On ne sait pas trop si c'est, si on doit le prendre du côté militaire, c'est-à-dire ça accompagne la marche pour justement aller défendre un territoire ou attaquer un territoire, ou si ça quelque chose qui est plutôt cultuel. Encore une fois, c'est probablement les deux et plus que ça, puisque on ne pourra jamais savoir, à moins d'avoir un Gaulois devant nous et de lui demander, dis donc, comment tu utilises ton carnyx, c'est pas possible. Et aussi, en fait, avec ce dépôt, par exemple, Tintignac, on retrouve aussi des enseignes. En fait, ce sont des têtes ou des parties de corps d'animaux qui vont être montées, par exemple, sur des pics. Par exemple, on ne sait pas trop, en fait, on ne sait pas trop à quoi ça sert non plus. Est-ce que c'est avec les carnyx? Ces études musicales sont un petit peu étranges à ce niveau-là.
Et donc, pour continuer avec l'Antiquité, chez les Romains aussi, donc on a à peu près la même perception de la musique que chez les Grecs. Donc on a la musique qui accompagne tous les jours, mais c'est surtout à portée rituelle et processuelle. Et par exemple, chez les Romains, en fait, on sait que l'orgue existe déjà chez les Romains, voire chez les Grecs. On a retrouvé, donc il y a des représentations sur des enduits peints ou sur des céramiques d'orgue, et on en a retrouvé un en terre cuite, alors je sais plus où c'est. Mais du coup, on a l'orgue, on sait que c'est un instrument qui existe déjà... et qui peut être même mis en scène. Après, si on continue un peu dans le temps, à l'époque médiévale, donc on commence à avoir pas mal de traces de musique. Alors c'est surtout les musiques religieuses qui nous viennent, parce que la musique profane est un peu plus dégradée, on va dire, et un peu censurée par l'Église aussi. Mais on sait que ça existe, même si pour le coup, la musique profane, c'est plutôt quelque chose qui est de transmission orale, mais on a des restes de poèmes, on sait qu'ils étaient joués aussi en musique. Et plus on avance comme ça, et plus au final les traces de musique perdurent. On sait par exemple qu'à l'époque de Louis XIV, on sait quel compositeur a écrit telle partition dans la partition écrite, on sait quel instrument était joué, comment c'était joué, et même toute la mise en scène qui allait autour. Je vais y arriver. Donc encore une fois, c'est des traces qu'il faut prendre avec des pincettes, mais on sait que la musique existe depuis la préhistoire. Et maintenant, Léo nous a choisi une petite chanson pour accompagner ça aujourd'hui.
Mais oui, tout à fait. Vous m'aviez fait une petite sélection. Il y a un morceau, forcément. Je ne pouvais pas ne pas le passer. C'est Sucer des cailloux des Fatal Picard.
Si t'es pro-israélienne, j'ai des oranges de Jaffa. Si t'es pro-palestinienne, j'ai du café de Gaza. Si t'es pro-tibétaine, j'ai du TD au plateau. Si t'es pro-américaine, j'ai même du Coca-Zéro. Tous mes produits sont cachers, stockés dans de frigidaires. Si tu fais le ramadan, je le fais évidemment. Pour ce qui est de l'alcool, si jamais tu conduis, si jamais tu tombes enceinte, je boirai pour de promis. Et si rien n'est à ton goût, comme je t'aime plus que tout, on vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant tous les deux. C'est plein de minéraux, tout simplement merveilleux. Si t'es pro-végétarienne, je
remplacerai mes posters deux fois de veau par des posters de boulgour de pommes de terre. Je suis sensible, c'est sincère, à la souffrance animale. Nos poules pondront en plein air des œufs sous péridural. Et si tu deviens végane afin d'éviter les drames, je ne porterai plus de cachemire, je n'irai plus aux soies à cuire, je n'irai plus jamais au cirque, je n'irai plus jamais au zoo. Et si tu pars en croisade pour la survie des salades, je militerai pour qu'il n'y ait plus de tueries de bébés laitues. On vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aime vraiment, on échangera nos cailloux. Vraiment nécessaire de vomir sur mes affaires, de te couvrir d'eczéma, de tomber dans le coma, de partir comme ça c'est bête à cause d'une simple baguette. Tu vas beaucoup me manquer, je m'étais presque habitué à te regarder mourir tendrement sur le canapé. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos.